Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, la vie profonde, la santé spirituelle au quotidien. C'est un livre qui est paru très récemment aux éditions du CERF. Je reçois son auteur, Jean-Guillaume Zéry. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'on peut vous présenter comme psychologue ?
Psychanalyste.
Non, j'ai mal commencé. Un, deux, oui. La vie profonde, premier entretien. La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien, c'est le titre de ce dernier livre paru tout récemment aux éditions du CERF. Je reçois son auteur, Jean-Guillaume Xéry. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous avez écrit entre autres autour de la vie intérieure, de cette vie profonde, revivez de l'intérieur. Vous avez aussi écrit Prenez soin de votre âme et ce tout dernier que je conseille à tous les auditeurs qui deviendront certainement, et je l'espère à la fin de cette série, des lecteurs de cet ouvrage. La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien, psychanalyste. Ancien interne des hôpitaux de Paris et diplômé de l'Institut Pasteur, vous exercez aussi des responsabilités dans l'environnement hospitalier et auteur de nombreux ouvrages. L'invité toute cette semaine dans cette émission qui a pour titre « Des clés pour vivre ». Ce titre de l'émission, est-ce qu'il fait un écho chez vous, psychanalyste qui travaillait dans l'écriture aussi sur cette vie intérieure, cette vie profonde où on cherche au fond des clés ? Des clés pour vivre.
Mais je trouve que c'est un très beau titre d'émission, les clés pour vivre, parce que oui, nous avons tous besoin de clés pour vivre, et que la vie, effectivement, j'allais dire, on entre de, pour entrer dans la vie, finalement, il faut quelque part ouvrir une porte. Enfin, c'est ce que m'évoque le nom de cette émission. Hein, et pour ouvrir une porte, souvent, il faut une clé, puis peut-être une autre clé, puis en fait un trousseau de clés, puis on cherche tous des clés pour entrer dans la vie. Et donc, je trouve que c'est un très bon, très 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 beau nom d'émission. Évidemment, moi, qui me parle aussi par rapport, effectivement, à mon activité de psychanalyste et effectivement par rapport à ce travail d'écriture autour dont le centre de gravité est la vie intérieure. Hein, à travers tous ces ouvrages, en fait, je tourne autour du sujet de la vie intérieure. J'essaye moi-même d'y rentrer un petit peu davantage. J'essaye de mettre des mots sur finalement ce qui s'y joue pour nous très concrètement au quotidien dans nos vies. C'est quoi finalement cette vie intérieure, hein, c'est finalement ça que je travaille, que je cherche et que j'essaye effectivement de partager et de chercher avec d'autres.
Alors dans l'écriture de ces trois ouvrages particulièrement, un de ces ouvrages, Prenez soin de votre âme, vous cheminez aussi dans l'écriture avec les figures des pères du désert. Alors, que vous ont-ils, je dirais, enseigné ces pères du désert ? Le silence du désert, au fond, l'intériorité, cette cellule intérieure qui est tout au fond, qui est cachée, où se cache peut-être le mystère de l'homme ?
Oui, les pères du désert, peut-être dire rapidement, si vous permettez, qui ils sont. En fait, ce sont des hommes et aussi des femmes. Il y a eu quelques femmes qui, au IVe siècle, se sont installées dans le désert pour vivre quelque chose de radical sur le plan spirituel. Alors, dans la mouvance de l'Évangile, et pour vivre justement quelque chose de radical. Donc, IVe siècle, et on est dans la région de l'actuelle Égypte, Syrie. Donc, ils se sont installés, en fait, dans les actuels déserts d'Égypte. Et ils ont inventé une vie totalement nouvelle, qui est de vivre soit complètement seul, soit généralement en toute petite communauté pour vivre la radicalité d'une expérience spirituelle, en l'occurrence inspirée par l'Évangile. Ce sont eux, les pères du désert, qui ont donné naissance ensuite au monachisme, c'est-à-dire à tous les moines tels que l'on connaît, les bénédictins, les dominicains et tout ce qu'on veut, en fait, sont tous des héritiers, en ligne directe, j'allais dire, des pères du désert.
Alors, vous l'écrivez dans un de vos livres, vous les définissez, ces figures des pères du désert comme, au fond, les premiers thérapeutes, les premiers sages et guides spirituels. Ils vous ont guidé, ils vous guident aujourd'hui dans votre travail de psychanalyste.
Oui, ils constituent un patrimoine absolument incroyable, et qui a fondé toute la spiritualité de la tradition chrétienne et aujourd'hui, indépendamment de la confession de foi, qui peuvent être extrêmement éclairant et d'une grande aide pour notre vie quotidienne. Donc, en effet, vous l'avez mentionné, ce sont à la fois, en fait, ils étaient à la fois des thérapeutes, des sages et des guides spirituels. Des thérapeutes parce qu'on venait on venait les voir, mais de très loin, et même des gens très connus ou bien des gens très simples, comme on va voir aujourd'hui un médecin ou un psychothérapeute, mais pour des sujets de maladies intérieures, de maladies de l'âme, de mal-être, etc. Donc c'était des thérapeutes. C'était aussi des sages. On venait les voir pour finalement un peu des conseils de vie. On dirait aujourd'hui pour trouver la paix, pour trouver un sens, pour devenir plus humain. Quelque chose de l'ordre, voilà, de maître de sagesse. Et c'était aussi des guides spirituels parce que, je le disais, cette expérience de radicalité, ils l'ont vécu et ils l'ont choisi délibérément sous l'inspiration de l'évangile. Et donc, c'était aussi des gens qui tournaient les âmes vers Dieu, qui savaient tourner les âmes vers Dieu. Donc, ils étaient à la fois complètement dans ce qu'on appelle aujourd'hui, finalement, les conseils, l'accompagnement psychologique, et en même temps aussi capables de tourner, finalement, les âmes de ceux qui venaient le voir vers Dieu. Donc, des gens aujourd'hui qui constituent pour nous un patrimoine absolument extraordinaire. Donc, oui, moi, ils m'ont aidé. Et c'est aussi pour ça que je travaille autant sur leurs textes et que j'essaye de les rendre accessibles.
Sont-ils accessibles pour le grand public aujourd'hui ?
Tous leurs enseignements, oui. Alors, je ne dis pas que si on prend les bouquins bruts qui parlent d'eux, qui sont universitaires, sont très faciles d'accès, non. En revanche, mes livres ou d'autres livres, hein, bien sûr, qui essayent d'inculturer, de rendre leur message intelligible et compréhensible aujourd'hui, oui, parce que tout leur patrimoine, en fait, ils nous parlent juste de notre vie psychique, de notre vie spirituelle, de comment fonctionnent nos émotions, notre âme, nos intelligences, comment tout ceci fonctionne. Et ce qui est tout à fait intéressant, et c'est l'objet notamment d'un de mes trois livres, Prenez soin de votre âme, où je mets en résonance finalement ce que l'on sait aujourd'hui du fonctionnement psychologique par le biais de la psychanalyse et de la psychologie positive, et puis de la neurobiologie. Et j'essaye de mettre en résonance ce qu'on sait en gros du fonctionnement de notre intériorité avec les outils modernes et ce que eux disaient déjà de l'intériorité. Et c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit qu'il y a des convergences très fortes.
Alors ça vous passionne toujours autant. Alors ces pères du désert, que disent-ils et que diraient-ils au monde aujourd'hui dans une émission en quelques minutes comme des clés pour vivre aujourd'hui à ceux et celles qui sont hyper connectés dans ce monde hyper connecté, hyper bruyant et au fond où il y a beaucoup d'agitation et un besoin paradoxalement, infiniment, un besoin de paix et de tranquillité, d'où aussi ce besoin aussi de retraite, de session, de stage de développement personnel. L'homme a besoin de se retrouver et paradoxalement il se connecte, il ne sait plus se déconnecter. Alors les pères du désert, qu'auraient-ils comme conseil du jour à donner?
Alors votre question m'appelle deux remarques. La première, c'est que la première chose que nous disent les pères et qui est hyper actuelle, c'est finalement comment l'homme est constitué. Voilà. Et en fait, l'homme est constitué en 3D, ce que j'appelle en 3D, c'est-à-dire en trois dimensions. Or, aujourd'hui, la façon dont on se regarde, c'est plutôt en une dimension. On est un organisme biologique, comme des animaux, comme des robots, comme un ordinateur, voire deux dimensions. On a un corps et puis un mental. Voilà. Or, eux, ils nous disent en fait, non, on est fait en 3D. C'est-à-dire qu'on est bien un corps, on est bien un psychisme. Et là-dessus, ils n'enlèvent rien, tout ce que les sciences modernes... Mais on a aussi une vie spirituelle. Cette vie spirituelle qui est non pas irrationnelle, mais suprarationnelle. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de la psychologie, au-delà de la biologie, au-delà de nos environnements culturels. C'est finalement cette dimension de nous-mêmes, en fait, qui nous donne un horizon qui dépasse tout ça. Voilà. Et c'est, en fait, c'est la dimension spirituelle, c'est ce lieu de nous-mêmes qui nous met en relation avec cet infini qui nous dépasse et en réalité qui nous crée et qui est la source de la vie qui nous habite. Et donc, ils nous disent, en fait, vous vivez en 3D. N'oubliez pas que vous avez cette dimension spirituelle qui, justement, donne de la saveur et du goût à votre vie et qui vous permet de vivre pleinement et aussi de traverser les épreuves et aussi d'affronter la mort. C'est dans cette dimension spirituelle qu'on trouve toutes ces ressources-là. Voilà. Et puis maintenant, deuxième chose qui me vient par rapport à votre question, que je trouve super pertinente par rapport effectivement à la place du numérique, au fait qu'on est tout le temps connecté, eh bien parmi leurs conseils, il y a trois conseils essentiels. Ça c'est surtout dans Revivez de l'intérieur que je développe un peu leurs 10 conseils, mais il y en a 3 principaux. Et le premier, c'est intéressant, par lequel je commence, c'est la sobriété. Leur premier conseil, c'est la sobriété. Et la sobriété, effectivement, il n'y a pas de vie psychique, de vie intérieure, de vie spirituelle, peu importe qu'on appelle de vie intérieure, équilibrée, apaisante, pacifiante, s'il n'y a pas quand même un peu de sobriété. Et la sobriété, quoi que puisse nous en dire le marketing qui ne veut pas autant de bien qu'il veut bien nous le faire croire, ce n'est pas de la privation, ce n'est pas vrai, c'est de la dépollution. On a besoin de se dépolluer. Alors, on parle beaucoup de la pollution environnementale, mais moi, en fait, dans mes bouquins, je parle de la pollution intérieure. On est entouré, alors peut-être de CO2, peut-être, etc., de tout ce dont on parle beaucoup en termes d'écologie environnementale. Mais il y a beaucoup de polluants, ce que moi, j'appelle des PDI, des perturbateurs de l'intériorité ou des polluants de l'intériorité. Et quels sont, et ça c'est une question que j'invite chacun à se poser, hein, moi je me la pose aussi régulièrement, c'est quoi moi mes PDI, c'est quoi mes polluants de l'intériorité? Et je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup, effectivement, c'est l'emprise du numérique dans nos vies. Et donc, oui, premier conseil, la sobriété. La sobriété. De quoi j'ai besoin d'être sobre? Donc non pas me priver, mais me dépolluer. Et le numérique est très clairement un polluant auquel nous sommes beaucoup exposés, quoi.
Donc là, c'est un chemin, allez, ne parlons pas de chemin de conversion intérieure, mais c'est aussi une décision. On se détermine, on fait le choix ou non de se dépolluer pour préserver, au fond, cette vie intérieure. C'est ce qu'on peut comprendre.
Vous avez parfaitement compris. Vous employez un mot important, c'est le mot de choix. Le propre de la dimension spirituelle, c'est qu'elle va mobiliser notre liberté. La vie psychique, souvent, elle est l'objet de déterminisme. Voilà, on a été déterminé par notre éducation, par notre culture. Bon, voilà, puis on se dépatouille comme on peut avec ça, de façon plus ou moins heureuse et parfois très heureuse et parfois dramatique. Et le travail psychothérapeutique est là pour essayer de se libérer d'un certain nombre de choses. Mais le propre de la vie spirituelle, c'est l'exercice de sa liberté. Donc à un moment donné, c'est j'ai les moyens que j'ai. Voilà, j'ai les moyens que j'ai. Mais comment je mobilise ma liberté avec les moyens qui sont les miens? Voilà. Comment j'exerce ma liberté pour faire ce choix de peut-être un peu plus de sobriété, pour être un peu moins pollué et pour voir justement mieux exercer ma liberté et en gros mieux m'épanouir, quoi.
Bon, merci pour les clés du jour, Jean-Guillaume Xéry. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, que vous venez de sortir ce dernier ouvrage paru aux éditions du CERF. Il s'intitule « La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien ». Eh bien, c'est le rendez-vous que je vous propose, si vous le voulez bien. Dès demain, je rappelle, et puis j'informe aussi les auditeurs qui vont vous suivre jusqu'à la fin de la semaine, que vous participez au Rosaire, ce pèlerinage du Rosaire, avec une conférence et que nous enregistrons ici dans les studios, pas très loin de la grotte Massabielle.
Merci Nathalie,
à demain. À la même heure. Au revoir.